Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Voilà, donc nous y sommes avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission mise sur pied par des citoyens comme vous, chers auditeurs, qui vous rappellent qu'il est toujours possible de changer les choses et les corriger. Donc, à condition, bien sûr, d'être convaincu que la contribution du citoyen peut faire toute la différence. Vous savez que l'autorité et le pouvoir violent constamment nos droits, voire les plus fondamentales, incluant notre liberté par endroit, alors que l'exercice et le mandat de leur pouvoir est celui de protéger et veiller sur la protection de nos droits civils, sur l'exercice de notre liberté, s'assurer que nos droits sont respectés et traités sur le même pied d'égalité. Vous savez très bien que les lois partout sont strictes, généralement justes, mais leur interprétation aux mains de l'autorité fait par moments défaut majeur. Voilà comment donc le citoyen devient rapidement victime dans un système qui donne souvent le bénéfice des doutes aux abuseurs de l'autorité et du pouvoir. Nous vous rappelons constamment que cette émission de dénonciation ne peut continuer son combat sans votre collaboration, sans votre appui, votre courage surtout. Vous êtes, chers auditeurs, chères auditrices, tous invités à participer. Votre témoignage devient une nécessité urgente pour que le pouvoir et l'autorité se rendent compte de la réalité vécue par nous, les citoyens. Une réalité amère, quasiment triste, qui nous préoccupe tous, nous révolte par degrés et nous pousse à réfléchir ensemble. Donc je vous rappelle que nous vivons dans une société qui reflète une certaine image qui n'est pas toujours vraie. Elle est par défaut un modèle et un exemple à suivre. Donc bref, sachez que vos interventions, vos protestations, vos dénonciations, votre cri d'alarme et votre critique sur ces ondes et d'autres réveillent fortement la conscience et l'intelligence de nos politiciens, les décideurs du pouvoir pour mieux voir les choses et pourquoi pas prendre la bonne voie. Aussi, vous ne devez en aucun moment oublier que c'est nous le peuple qui a créé l'autorité et le pouvoir. C'est nous qui a mandaté l'État à nous protéger dans le respect des droits. Mais à défaut d'un manque de soucis réels, nous avons perdu beaucoup de terrain à dire notre dernier mot. Ou plutôt, la parole du citoyen n'a plus de poids. Donc chacun de nous, chères auditrices, chers auditeurs, se rappelle que nous avons tous le devoir de contribuer afin que cette société préserve son caractère distinct de société modèle, de justice et de respect. Avec vous ce matin au micro, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui s'occupe entre autres de la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer leurs abus de pouvoir. À mes côtés, j'ai mon collègue Roland Cazès, un militant fidèle à son engagement. J'ai maître Andrea Popisco qui nous accompagne le long de cette émission. Il y a aussi Clara, une future avocate, qui nous observe et prend des notes de temps en temps. Et devant moi, celle qui me fait toujours des signes, c'est Madame Rosemont Logo, notre technicien de son. Donc, avant de passer à notre thème musical, je vous avise que notre invité d'aujourd'hui est Monsieur Jean Stoll, une personne particulière, hors du commun. Monsieur Jean Stoll mène depuis plus d'une dizaine d'années un combat au sein d'un groupe de présumées victimes contre d'abord la loi sur la protection de la jeunesse, puis contre les institutions et notamment la direction de la protection de la jeunesse. Un homme qui était privé injustement de ses enfants pendant des années, sans pouvoir même obtenir ce droit minime de se défendre. Résultat donc, la famille est détruite à jamais, les enfants qui sont plus vieux aujourd'hui n'arrivent plus simplement à fonctionner dans la société, le père, M. Jean Stoll, survit avec ce sentiment d'incapacité de ne pas pouvoir venir en aide à lui-même et à ses enfants. Donc il a perdu totalement confiance dans le système et son combat, et principalement aujourd'hui de vouloir éviter à d'autres victimes l'enfer de la DPJ. Vous allez voir cette fois aussi que M. Jean Stoll et d'autres présumées victimes vont encore plus loin. Et avec raison d'ailleurs, ils accusent ouvertement le gouvernement du Québec et celui du Canada de crimes contre l'humanité. Restez à l'écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Dans quelques minutes, nous allons pénétrer dans cette boîte noire qui est la DPJ.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Donc voilà, dans le bilan des DPJ pour l'année 2008-2009, ils affichent avec fierté 69 705 signalements traités. Retenez ces chiffres. Hein. Donc je répète, dans l'année 2008-2009, les DPJ affichent dans le bilan, dans leur bilan, ils affichent avec, et avec fierté, 69 705 signalements traités. Et pour l'année 2009-2010, pardon, donc ils affichent aussi 70 716 signalements traités. Alors écoutez attentivement, hein, pour la même période, l'Institut de la Statistique de Québec affiche pour le 2008-2009 87 865 naissances. Pour le 2009-2010, il affiche 88 600 naissances. Ça veut dire quoi ces chiffres? Mon cher auditeur, ça veut dire quasiment que tous les enfants qui naissent dans les établissements de l'État, automatiquement, font l'objet d'un signalement au DPJ. Et justement, dans ces énoncés, vous remarquez aussi que le nombre des signalements n'est pas tout à fait loin de celui des naissances. Ce qui nous confirme une seule chose, c'est qu'il y a ouvertement, ici, au Québec, et depuis longtemps, une politique engagée de protection de l'enfant par l'État. Bien. L'État cherche finalement, et par tous les moyens, de prendre en charge les enfants et jouer soi-disant le rôle des parents dans la plupart des cas. Bien. Alors regardez maintenant, au niveau de priorité, la Déclaration universelle des droits de l'homme, par son article 16, elle confirme et précise que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et à celle-ci a le droit à la protection de la société et de l'État. Donc résultat, au Canada et plus particulièrement au Québec, la famille n'a pas le même statut de protection. Voilà pourquoi on assiste à sa disparition graduelle. Ce qui fait que l'État, elle est le premier responsable direct de ce phénomène de destruction sociale. Cette politique soi-disant de protection de la jeunesse a fait malheureusement dévier presque la totalité de ces générations des DPJ et les proches qui les entourent, les témoins, les observateurs, le public par crainte finale de cette trajectoire. Autrement dit, on assiste à une exclusion systématique de tout projet de construction de famille. Bref, nous savons, et même les spécialistes sont d'accord sur le fait que l'État ne peut et d'aucune façon remplacer le rôle des parents, des grands-parents, de la famille élargie. Nous savons aussi qu'une fois l'enfant arraché de son milieu naturel, automatiquement il perd les pédales et il lui sera impossible d'avancer ou de fonctionner correctement dans la société, même s'il fait semblant. Maintenant, la grande question qui se pose, puisque l'État québécois mise énormément sur l'enfant par rapport à la famille, y a-t-il un intérêt particulier derrière cette politique? Et la seconde question qui se pose, comment voulez-vous protéger les droits de l'enfant et la vie de celui-ci en négligeant son milieu naturel, cette cellule familiale qui est la base de la société? Écoutez, avant de céder la parole à M. Jean Stoll pour nous répondre peut-être, j'ai demandé à ma collègue, Mme Rosemonde Legault, de vous choisir un extrait d'un témoignage de ces milliers de victimes de la DPJ. Alors, qu'est-ce que vous allez nous dire ce matin à propos de ce dossier, Mme Legault?
Certainement, à vous dire, ce que j'ai pu ressentir dans mes recherches, c'est de l'indignation et beaucoup de mécontentement et de colère, puisque...
Quand vous disiez vos recherches, ça veut dire vos lectures?
Exactement. Pour préparer l'émission d'aujourd'hui, j'ai dû faire de la recherche, regarder des documentaires, lire un peu ce que les gens des regroupements comme M. Stoll ont monté sur Internet. Voilà. Et c'est très, très troublant ce qu'on peut lire et ce qu'on peut constater de ce que fait la DPJ.
Donc, et surtout le témoignage direct des gens qui ont vécu dans le DPJ.
Exactement.
Ils ont vieilli, si vous voulez, dans le DPJ.
Oui, oui, ça c'est assez troublant. C'est ce que je compte vous faire écouter tout à l'heure. Mais avant cela, j'aimerais vous dire qu'on, nous, à l'organisme, on n'est pas spécialisé.
Le mouvement Action Justice n'est pas spécialisé, malheureusement, dans la question des enfants victimes, des
DPJ. Oui, ou des parents qui sont victimes.
Des grands-parents.
Exactement. Par contre, on reçoit énormément d'appels et de gens qui viennent nous voir pour avoir de l'aide, parce qu'il semble qu'ils soient un peu démunis face à toute cette grosse machine-là et cette grosse organisation-là, et qu'il y a très peu de soutien pour ces parents-là et ces enfants-là. Donc, pour moi, ça...
C'est dommage qu'on se soit incapable. De venir en aide à ces gens-là.
Exactement. Ouais. Donc, je compte vous présenter la première partie d'un documentaire qui s'appelle « Enfants de la DPJ », qui est...
J'ai
pris ça de YouTube, mais c'est
bien,
un...
Parce que de toute façon, il y a plusieurs témoignages. Il y a des centaines de témoignages. Oui. Mais vous avez choisi comme ça, tombé comme ça sur...
Exactement, lui, qui est un documentaire que vous pouvez trouver, chers auditeurs, à l'Office national du film. Donc, sur le site de l'Office national du film, il est possible de le retrouver ou sur YouTube, simplement taper « Enfants de la DPJ ». Donc, dans le documentaire, vous allez entendre plusieurs jeunes qui parlent de leur expérience dans les centres jeunesse ou dans les familles d'accueil. C'est assez triste comme constat.
Aussi,
vous allez aussi aussi entendre Gilles Julien, qui est le pédiatre social le plus connu au Québec, oui. qui se prononce sur le cas de la DPJ, et Maître René Binet, qui est un avocat spécialisé en droit des jeunes, oui. Qui expose un peu la situation.
La problématique de
la
DPJ. Oui,
voilà. Oui. Donc, moi, je vous propose de passer tout de suite
à écouter le témoignage.
Exactement.
Voilà, chère auditrice, cher auditeur, on va écouter cet extrait de témoignage que Mme Legault nous a préparé ce matin.
La DPJ m'a volé ce qui me restait d'estime de moi. De 7 à 17, faites dire ce que vous voulez, mon enfance, mon adolescence, puis mon préparation de chemin vers la vie adulte.
Entre un an et 17 ans, j'ai fait 9 familles d'accueil, environ. Si je compte ceux que je me rappelle pas, là, j'ai fait 9, puis les travailleurs sociaux, j'en ai eu une dizaine. J'en ai eu beaucoup. Ils ont changé tout le temps. Comme un animal en cage. Tu sais, t'es obligé, t'as des heures de... Pendant une journée de temps, là, t'as une planification de 8h le matin à 9h le soir. T'es obligé de faire ça, là. Le seul temps de break que t'as là-dedans, là, c'est quand tu dors, t'es couché.
C'est quand tu te retrouves toute seule dans ta chambre la nuit, il fait noir, il n'y a aucun son. Tout ce que t'entends, c'est le pas des agents à corridor qui passent. Puis tu voudrais juste pouvoir parler à tes parents. Voir tes amis, puis penser que c'est pas combien, dans combien de temps je vais sortir de là.
Le nombre d'enfants signalés à la direction de la protection de la jeunesse a dramatiquement augmenté depuis quelques années. Comme Michel, Annie, Valérie et Sean, plusieurs d'entre eux ont été abandonnés, négligés, abusés sexuellement ou carrément maltraités.
Était quand même assez jeune. Ma mère était mineure. C'était un peu pour ça aussi. Ma mère voulait une fille. Je suis pas capable encore, à 28 ans, de comprendre pourquoi que, parce que tu veux une fille, tu abandonnes ton enfant au bout de 2, 3, 4, 5 mois, ce que je me suis fait dire.
Fondée sur la reconnaissance des droits de l'enfant, la loi sur la protection de la jeunesse est entrée en vigueur il y a 25 ans, en 1979. Le plus grand acquis de cette réforme est sans aucun doute le droit des enfants d'être protégés de la cruauté, de l'abus, des mauvais traitements et de la négligence grave, avec l'obligation pour tous les citoyens du Québec de signaler une situation.
Raison de dire on a fait un grand bout de chemin parce qu'avant, il y a 25 ans, quand on avait besoin de la loi pour intervenir, on ne l'avait pas, elle n'existait pas et il fallait faire des pieds et des mains, il fallait parfois appeler des juges chez eux pour leur demander de nous aider à intervenir ou de garder un enfant à l'hôpital parce qu'on n'avait pas le droit si on n'avait pas cette autorisation-là. C'était compliqué.
Mais à l'heure du bilan, de plus en plus de voix s'élèvent pour lancer le même cri d'alarme. On a beau avoir une des meilleures lois au monde, les services d'aide aux jeunes et à la famille sont en déroute et se montrent incapables de protéger tous les enfants en danger.
De l'enfance en difficulté, il y a une problématique de confidentialité. Problématique parce qu'il y a un côté positif dans le sens de conserver l'anonymat pour le respect des enfants et des parents qui vivent des difficultés, ça va. Mais l'effet pervers, c'est que les gens ou le public ont l'impression que tout roule, tout est pris en charge et que c'est pas le cas. Mais moi, je parle de ce que j'ai vu dans mes dossiers. Et je peux tout vous dire que la situation est inquiétante.
Les jeunes de ce film ont tous passé de nombreuses années dans les couloirs de la DPJ. Devenus adultes, ils ont choisi de sortir du silence pour raconter ce qu'ils ont vécu. Au-delà des critiques et des reproches, leurs histoires sont extrêmement troublantes et soulèvent de nombreuses questions sur le sort des enfants confiés à l'État.
aujourd'hui, c'est ça que je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Qu'un enfant se retrouve comme ça dans un système qui est vraiment pas fait pour un enfant. Vraiment pas, là. C'est un système que... Je m'excuse des mots, là, mais que... Je donnerai à personne. Je voudrais même pas mon chien... La DPJ s'occupe de mon chien. Il te garoche d'un bord puis d'un autre puis t'as l'air de numéro.
Ce qui a été le plus dur dans la DPJ, c'est qu'ils se foutent complètement de ce que les enfants pensent. Puis pour eux autres, là, les enfants, c'est des menteurs. Puis ils en mettent plus qu'il y en a, mais ils s'en foutent complètement. Ce qui a été le plus dur, c'est de me faire étiqueter comme ça. Je me suis fait étiqueter. Puis me faire... La réputation que j'ai pu avoir dans le dossier... J'étais comme un monstre, là, comme on me décrivait. Là. J'étais comme une folle là, qu'on n'aurait jamais pu laisser un enfant dans mes bras. C'était la compromettre la sécurité de l'enfant, laisser dans mes bras. C'est ça qu'on marquait. Puis ça, là, ça me faisait tellement mal parce que je savais. Je savais, puis au début, il n'y avait personne qui me croyait. J'étais toute seule dans cette histoire-là. Personne me croyait. Tout le monde était contre moi.
Tout commence par un professeur qui remarque un bleu, un médecin qui soupçonne un abus, un voisin qui signale un cas flagrant de négligence.
La première fois que la DPJ est rentrée dans ma vie, j'avais un an. Je m'en souviens pas, là, mais c'est les travailleurs sociaux qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Puis c'est parce qu'il y avait de l'inceste là, dans la famille avec mon père. Mon père, il me faisait de l'inceste. Puis il m'avait envoyé dans une famille d'accueil quelques mois. J'avais un an. Ça, c'était la première fois que j'ai été placée en famille d'accueil.
Le premier move, c'était que mon père a appelé la DPJ qui a dit que j'étais un enfant problème. Que ça n'allait pas nulle part, ni à l'école, ni à la maison, ni avec mes amis voulaient tous me planter parce que j'étais un petit baveux. Ça a commencé quand mon père m'a appris ça, je le croyais pas. Il a dit, pour moi, je m'allais dans un camp de vacances. Puis il dit, tu vas aller réfléchir un mois, puis après ça, on va se reparler. Je rentre dans le système de la DPJ. Un mois. Je suis posé d'être en encadrement intensif, qu'il appelle. J'ai resté jusqu'à l'âge de 18 ans sans accueil.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Voilà, donc, revenons à notre émission d'aujourd'hui et cédons, soi-disant, la parole à Monsieur Jean Stoll qui va. Bonjour, Monsieur Jean Stoll. Merci d'avoir. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom?
Jan Stoll,
my bonjour. God, bonjour. C'est gentil d'accepter notre invitation et merci. De venir sur ce plateau. Peut-être la première question qu'on aimerait bien savoir, vous vivez ici au Québec depuis combien d'années?
Depuis 27 ans.
Depuis 27 ans.
Oui, 84.
Et vous venez d'où?
De l'ancienne Tchécoslovaquie, actuelle Slovaquie.
Slovaquie.
Native de Bratislava.
Oui. Et vous avez, justement, c'est une question toujours qu'on pose à nos invités. Vous arrivez ici au Québec, vous avez choisi plutôt la société québécoise ici au Québec. Pourquoi?
La société canadienne, par sa réputation de respect de droit. Moi, je suis né et j'ai vécu mes 30 premières années dans un pays d'un régime totalitaire, communiste.
Voilà.
La Tchécoslovaquie, et évidemment, c'est ça ce qui m'a amené à fuir mon pays natal.
Oui, voilà.
Et l'image du Canada que j'ai cru à l'époque m'a amené à m'installer ici, à Montréal.
Vous et votre famille.
Voilà.
Votre famille.
Cependant, en 2001, j'ai vécu des choses extrêmement traumatisantes qui ont bouleversé et
complètement votre
presque...
vie.
Presque failli de détruire ma vie, la vie de mes enfants.
Ouais.
On s'en sort.
Moi, je pense que la famille, elle était détruite, si je ne me trompe pas. C'est pas important, mais est-ce qu'on sait que ça.
Je ne vais pas embarquer trop dans les détails de notre cas personnel.
Oui, mais le plus important.
C'est ça ce qui m'a amené à regarder toute la politique de la protection de l'enfant ou de la jeunesse au Québec et au Canada.
Nous avons aussi, j'ai aussi dans l'introduction signalé aux auditeurs comme quoi vous étiez quand même. Vous n'avez pas vu vos enfants pendant 8 ans.
Mon fils Benjamin.
Oui, oui.
Ok. Le fils cadet, je l'ai pas vu pendant 4 ans. Oui. Puis mon fils aîné, je le vois toujours pas.
Oui.
Et parce qu'il a été aliéné à fond.
Définitivement. Oui.
Et puisque les problèmes n'ont jamais été résolus, les instances autant judiciaires qu'exécutives se dérobent constamment sur nos requêtes,
ouais.
Pourtant bien fondées, bien démontrées, bien fondées en droit et dans les faits. C'est ça ce qui m'a amené à devenir ce que je suis actuellement, ça veut dire je suis porte-parole du groupe Droits de l'enfant et de la famille,
oui.
Requérant, constitué des victimes, de présumées victimes de cette politique de la protection de la jeunesse. Et nous sommes des requérants d'une enquête immédiate et impartiale sur la politique de la protection de l'enfant par l'État au Québec et au Canada.
Avant de vous poser cette... Peut-être je vous la poserai après l'annonce publicitaire. Je vous poserai la grande question, justement, qui est une question quand même assez grave, parce que vous reprochez au gouvernement... Vous accusez plutôt le gouvernement canadien et québécois de
crimes
contre l'humanité.
Absolument.
Vous allez essayer de convaincre les auditeurs aujourd'hui. J'aimerais bien revenir que sur cette notion de la famille. Vous arrivez ici avec une notion de développer la famille, de vivre en famille et tout. Quel regard vous avez vis-à-vis de la famille ici aujourd'hui?
Déjà,
est-ce que votre regard a changé depuis votre...
Déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que la famille est un élément fondamental
voilà.
de la société.
Ouais,
okay?
ouais.
Et reconnaît des droits à la famille. Les autres instruments de droit international conséquemment reconnaissent des droits et surtout le temps que les parents prennent le soin de l'enfant, l'État canadien a pris l'engagement de soutenir
oui.
la famille et les parents dans leur rôle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est tout autre chose.
Vous êtes en train de dire que la réalité écrite et la réalité sur le champ vécu, elle est complètement différente.
C'est déjà par écrit ici au Québec
oui.
et au Canada qu'on viole d'une manière flagrante et très grave des engagements internationaux que le Canada a fait au fil des ans.
Oui.
C'est déjà la loi sur la protection de la jeunesse.
Vous reprochez même
au législateur québécois.
Au législateur québécois.
Oui,
déjà
absolument.
Au départ des défauts.
Nous reprochons.
Ouais, parce que
moi, évidemment.
Société des victimes, quoi.
C'est pourquoi nous avons manifesté l'an passé, le 13 octobre 2010,
ouais.
Au 10e anniversaire d'un jugement de la Cour suprême du 13 octobre 2000,
ouais.
qui a été rendu 10 jours avant
Oui, monsieur Chaud, si vous me permettez, on va faire une pause publicitaire et on revient à vous.
Excellent.
2 minutes.
Montre-toi donc, diplodocus, babois, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descendons, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Ici Miles Taylor de Jazz Boulevard. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à minuit sur la grille anglophone de Radio Centre-Ville pour 2 heures de musique et entrevues du monde de jazz. À vendredi!
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse? Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Je remercie une seconde fois Monsieur Jean Stoll d'être ici parmi nous aujourd'hui pour dénoncer certaines situations vis-à-vis à la DPJ. J'aimerais bien peut-être reprendre, et je vous pose la plus grande question qui dérange. Comment pouvez-vous aujourd'hui convaincre l'auditeur de ce que vous apportez aujourd'hui, arriver à accuser le gouvernement de crimes contre l'humanité?
Nous avons déjà lancé un défi il y a un an, comme je viens de mentionner. On a manifesté devant la Cour suprême du Canada et devant le Parlement canadien le 13 octobre 2010 pour leur rappeler le 10e anniversaire du jugement de la Cour suprême qui a détruit les garanties juridiques de la Charte canadienne de droits et libertés aux enfants et à leurs parents dans le contexte de la protection de la jeunesse ou de l'enfant. C'est spécifié exactement comme ça dans le jugement du 13 octobre. Et on a fait des discours, on les a accusés publiquement de crimes contre l'humanité.
Est-ce que vous pouvez, excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Stahl, pouvez-vous juste nous expliquer rapidement de quoi il s'agit dans cette décision, puisque vous en faites référence, et il me semble que c'est un point important pour l'auditoire de comprendre un peu le contexte légal.
Oui, évidemment, le jugement stipule que dans l'appréhension de l'enfant, les intérêts en jeu dans le contexte de la protection de l'enfant dictent une analyse quelque peu différente de celle entreprise dans le contexte criminel relativement aux droits garantis à l'accusé par l'article 7 et 8 de la Charte. Du fait de ces distinctions, les tribunaux devraient hésiter à appliquer au contexte de la protection de l'enfant des procédures élaborées dans le contexte criminel. Ce qui est une approche totalement fausse et totalement permissieux, puisque la Cour suprême a substitué à la personnalité juridique de l'enfant l'autorité de l'État, et ça lui a permis de détruire les garanties juridiques pour les enfants et leurs parents et leurs familles, et aussi il a encouragé les tribunaux à désobéir à la loi suprême, la loi constitutionnelle du Canada, qui nous garantit la présomption d'innocence et d'autres droits fondamentaux. Et c'est justement sur quoi on base nos griefs. C'est basé sur le statut de Rome de la Cour suprême du Canada, une loi internationale qui a été introduite, intégrée dans la juridiction canadienne par la loi sur le crime contre l'humanité, qui est entrée en vigueur justement 10 jours après ce jugement, le 23 octobre 2000. Alors, on peut présumer que ce jugement a été prémédité, concocté par les pouvoirs exécutifs, législatifs, peut-être pas législatifs, mais exécutifs et juridiques. Ça, c'est de toute évidence. Nous reprochons nos reproches se basent sur les définitions des crimes commis. C'est alinéa E, paragraphe 1, l'article 7 de crime contre l'humanité du statut de Rome, c'est-à-dire emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, c'est-à-dire, dans peu importe le contexte, l'État n'a pas le droit de priver quelqu'un arbitrairement de sa liberté physique.
Mais là, on parle de... Oui, continuez.
Alors, c'est applicable aussi à l'internement d'une personne atteinte d'un trouble. On ne peut pas l'interner arbitrairement. Il y a des procédures à respecter et ces droits fondamentaux doivent être respectés. C'est pourquoi on a relâché ou ouvert les asiles dans certaines années. Voilà. Oui. D'autres éléments de crime qu'on reproche, c'est la torture, c'est alinéa F, alinéa H, persécution de notre groupe, et cas autre acte inhumain de manière de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à liberté physique ou à la santé physique ou mentale, c'est-à-dire du mauvais traitement. Mais ce là, qui n'atteint pas le niveau d'intensité de la torture.
C'est ça, mais ce soir, vous parlez toujours dans le général. Hein, on parle,
oui, attention, c'est en général.
Parce que c'est ça, en général. Mais comment pouvez-vous nous expliquer qu'un enfant qui est livré à la DPJ parce que sa famille ou son milieu naturel est défectueux et que la DPJ peut intervenir pour vraiment venir en aide à l'enfant et vous parlez de ça comme une privation de liberté et de torture.
Déjà, en appréhendant l'enfant, c'est inhérent à cet acte. L'État inflige une douleur ou des souffrances mentales aiguës à l'enfant
Tout à
et
fait.
À ses parents.
C'est-à-dire pour vous, arracher un enfant de sa famille telle qu'elle est, c'est déjà...
Si le processus aurait été légitime, légal, en respectant les droits fondamentaux,
oui.
ça n'aurait pas pu être qualifié comme torture.
Oui.
Mais puisque l'acte d'appréhension est même autorisé par la Cour suprême
oui.
de violer les droits fondamentaux, c'est un acte illégal au regard de droits constitutionnels, et c'est pourquoi ça constitue la torture, sinon le mauvais traitement.
Mais
les crimes de persécution sont étroitement liés aux autres, et c'est ce qu'on reproche surtout aux instances judiciaires. Et paragraphe 2, qui est au fin du paragraphe 1 de l'article 7, stipule que par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation de droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. C'est-à-dire, c'est lié à la minorité de l'enfant, à son immaturité physique et mentale.
Oui.
Et c'est aussi ce qui a permis à la Cour suprême à substituer à la personnalité juridique de l'enfant l'autorité de l'État.
Oui, attends, on va juste écouter Maître Andrea, elle a une intervention, après ça on revient. Oui, Maître Andrea.
Je comprends votre souci par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, comment la Cour suprême, elle a substitué... L'État a un pouvoir légitime d'agir au nom de l'enfant.
Oui.
Mais comment on peut concrètement, quelle solution on aurait pu obtenir pour protéger, par exemple, les droits d'un bébé, d'un jeune enfant qui ne peut pas décider pour lui-même et il se trouve réellement dans une situation de danger?
Justement. En droit international, les normes des instruments ou des principes stipulent depuis des années que l'appréhension de l'enfant va rester au dernier recours.
Oui, alors,
l'État
oui.
a l'obligation d'intervenir en famille pour les aider, pour les soutenir,
oui.
pour aider à résoudre des problèmes, etc. Mais avec tous les problèmes de services de santé et services sociaux aujourd'hui, actuellement, même les parents qui ont de...
Vous parlez d'un dernier recours, c'est ça? L'État a ce
non, ici, recours. Ici, les pratiques sont que c'est au premier chef.
Voilà,
l'appréhension de l'enfant se fait au premier chef.
Oui.
Les DPJ ont un pouvoir énorme.
Exactement, oui.
C'est même spécifié ou caractérisé par les juges dans de nombreux jugements.
Qu'est-ce que vous voulez dire par que la DPJ elle a un pouvoir énorme? Pouvez-vous développer un petit peu là-dessus, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Il y a deux aspects qui sont vraiment très frappants dans la loi sur la protection de la jeunesse qui existe depuis sa mise en application janvier 79, c'est-à-dire les directeurs de la protection de la jeunesse sont subordonnés aux directeurs généraux des centres jeunesse.
Fait,
alors
oui.
il y a un flagrant conflit d'intérêts. Le directeur général de la jeunesse, ses préoccupations sont surtout au niveau de flou de la clientèle dans ses centres jeunesse. Il ne va pas vider son centre jeunesse. Alors déjà là, la stratégie de DPJ est biaisée évidemment,
oui.
mais aussi la loi donne en exclusivité des pouvoirs arbitraires, c'est-à-dire le pouvoir d'être enquêteur, d'être le juge de son propre enquête et d'être exécutant de son jugement.
DPJ, là.
DPJ.
Exactement.
Le directeur. Mais le directeur est subordonné au directeur général.
Oui,
c'est vrai. Ça veut dire que c'est le directeur général qui détient les pouvoirs de facto et des jurés, et des pouvoirs exorbitant.
Ça veut dire devant les tribunaux généraux, devant les tribunaux de la jeunesse, toujours c'est la dernière parole, elle revient toujours au DPJ, c'est ça?
Les tribunaux, c'est un apanage du système. Tout simplement des poudres aux yeux, c'est tout. La majorité des juges de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse,
Oui.
ont déjà fait preuve d'allégeance au système en tant qu'avocat ou même des chefs de contentieux des centres jeunesse.
Ça veut dire
On prétend que ça constitue jusqu'à 90% des juges, alors ça n'a aucun bon sens.
Ça veut dire même pour des choses légères, l'enfant, c'est-à-dire la famille peuvent perdre l'enfant, les parents n'ont pas la capacité de défendre.
C'est vraiment au bon vouloir du directeur d'appréhender ou non l'enfant. Il n'y a aucun contrôle. Au contraire, même la police et les substituts du procureur général sont tenus à respecter le rôle discrétionnaire de DPJ dans les affaires criminelles, comme stipule le plan d'action sur les agressions sexuelles du gouvernement du Québec de 2001.
L'agression, c'est vraiment, il y a plein d'agressions, c'est sûr et certain. Attends, je donnerai la parole à ma maître Andrea Popisco. Oui, maître.
Oui, moi, j'aimerais comprendre un petit peu plus la position de M. Stahl. Il dit que la DPJ a un grand pouvoir discrétionnel. Il arrive même qu'elle va porter elle va prendre le rôle de juge. Pourtant, je le sais concrètement, quand il y a des situations de compromis, etc., dans la vie d'un enfant, la Cour du Québec est vite impliquée dans le dossier.
Oui, il y a de plus en plus de judiciarisation des dossiers, évidemment. Oui. C'est parce que ça nourrit énormément le corps juridique. Oui. Il y a énormément d'argent impliqué là-dedans, alors il ne se gêne pas, pourquoi pas. Mais ce qui est essentiel dans ça, c'est le non-respect des droits fondamentaux. On n'aurait pas à judiciariser le dossier tant et aussi longtemps qu'on n'épuise pas tous les recours préalables. Ça veut dire le soutien à la famille. Okay. S'il y a des problèmes de pauvreté, etc.
Mais c'est vrai parce qu'il y a 4 sur 5 de familles qui sont placées, les enfants qui sont placés sont d'une famille pauvre.
Hein. Absolument, absolument.
Oui, tout à fait.
Aussi, la pauvreté éducationnelle ou intellectuelle, ça ne veut pas dire qu'une mère qui n'a pas d'éducation est forcément une mauvaise mère. Au contraire. Ouais, ouais. Mais elle a peut-être besoin juste d'un coup de main, des conseils.
Mais vous, M. Stone, vous, directement, vous réclamez aujourd'hui que l'engagement politique devra normalement être investi dans la famille avant d'être investi chez l'enfant.
Oui, dans la répression. Le DPJ, ça concerne. Constitue vraiment un gestapo de la famille ici. Gestapo, c'est peut-être
non, mais c'est vrai,
trop
c'est
fort,
le...
mais Gestapo a été très connu par le fait qu'ils avaient un mandat permanent d'appréhender et de tenir sans aucune limite, sans aucun jugement les personnes. Ouais. Alors, c'est le même cas pour le DPJ au Québec, aujourd'hui.
On parle souvent de, juste quand on parle avec la DPJ, ils disent toujours que c'est des cas isolés. Est-ce que c'est vraiment généralisé?
C'est tout à fait généralisé. Ouais, ouais. Il n'y a aucune raison pourquoi le DPJ se casserait la tête et envoierait des experts sur le terrain pour aider et soutenir la famille, puisqu'il a le pouvoir d'envoyer les gens peu instruits qu'il a éduqués lui-même pour vraiment écraser la famille. Imposer sa loi.
Maître Andrea, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je comprends ce que vous venez de nous expliquer, Monsieur Stahl. Par contre, à part la pauvreté et d'autres problèmes pour lesquels la DPJ aurait peut-être, selon vous, donné plus de soutien aux familles,
oui.
Il y a beaucoup de cas de familles où il y a, par exemple, consommation de drogue, des familles où ce sont des problèmes graves qui mettent en danger réellement la vie de l'enfant. Qu'avez-vous à dire par rapport à ces situations-là qui sont quand même très communes au Québec?
Pardon. Je fais rappel aux lignes directrices qui ont été adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU pour le 20e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui stipule que même le fait qu'un parent se drogue ne constitue pas en soi une raison pour appréhender l'enfant. Il faut d'abord épuiser les aides, les recours possibles.
Ce qui n'est pas fait tout à fait, vous avez complètement juste.
Nos autorités, notre législateur n'a qu'à se pencher légèrement, juste d'un œil, sur les lignes directrices de l'ONU et ses normes qui l'établissent pour voir l'atrocité de leurs lois.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on vit ici au Québec? En l'an 2011, on vit ça. Ça n'a aucun bon sens.
Mais vous voyez aussi, peut-être que vous avez remarqué, et ce qui appuie aussi votre appel aujourd'hui, c'est que même les jeunes, hein, ces gens-là qui ont vécu dans des DPJ et tout, le résultat, il est quoi aujourd'hui?
Il est désastreux.
Ouais.
Énormément de drogue qui circule librement dans les centres jeunesse, la prostitution juvénile, etc. C'est atroce.
Non,
on inflige, il y a une question vraiment en particulier qu'il y a dans les centres jeunesse, c'est l'isolement. Pourtant, l'isolement, au niveau international, s'est constitué comme une torture. Mais ici, au Québec, ça constitue prétendument une approche thérapeutique qui protège l'enfant de lui-même.
Oui. Mais Andrea, oui.
Oui, j'aimerais demander à M. Stahl, pourquoi pensez-vous, c'est quoi la raison derrière cette réalité que vous dénoncez aujourd'hui en ondes, pourquoi la DDPJ, elle se comporte ainsi selon vous?
Pourquoi on est arrivé où
c'est
on
ça,
est
c'est
actuellement?
Oui, c'est... Pourquoi le Québec, surtout en particulier?
Au niveau
Québec.
Historique, déjà l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse, en vigueur depuis 1964 jusqu'à 1979, qui a été remplacée par la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse, a violé des droits fondamentaux par le fait que le juge était un seul maître à bord et il n'admettait pas la défense dans la salle d'audience et il n'y avait aucune possibilité d'appel de ce jugement, ce qui était au niveau au regard des normes et des dispositions de droit international, se constituait des violations extrêmement graves. Et dans l'époque, on reprochait une trentaine de mille d'enfants par année appréhendés et privés de liberté.
Oui, mais cette politique qui dure depuis 30 ans, 25 ans.
Alors, on reproche que la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse ne fait que dissimuler les crimes du passé.
Mm-hmm. Oui.
Et perpétue cet état de fait.
Oui. Mais le résultat qui est négatif aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que ça va détourner un petit peu la position du gouvernement pour réfléchir autrement?
Mais nous espérons toujours que... les instances internationales pourront intervenir ici.
Oui.
Nous avons épuisé tous les recours possibles par le fait que nous avons demandé à M. Mulcair de déposer ce qui a fait une pétition le 15 novembre 2010. Et dans cette pétition...
Et déposée à la Chambre des communes
À la Chambre des communes, oui. L'an passé, le 15 novembre. Et nous parlons clairement, nous accusons la Cour suprême de ce fait d'avoir détruit les droits fondamentaux. Dans ce contexte, nous reprochons au directeur de la protection de la jeunesse de commettre quotidiennement des dizaines d'actes, notamment d'appréhension et de détention arbitraire des enfants, d'interrogatoires secrets, de persécutions, infligeant délibérément les souffrances aiguës aux enfants, à leurs parents et à leurs familles.
Oui.
Et nous avons exprimé que nous désirons porter à l'attention de la Chambre des communes réunie en Parlement, notamment les préjudices graves, la détresse, les souffrances et les vies brisées inconséquemment infligées à des milliers d'enfants, à leurs parents et à leurs familles au Canada et qui continuent à subir le déni total et systématique de droit et de justice. Et nous avons formulé deux requêtes. Nous, sous signal des résidents du Canada, demandons à la Chambre des communes réunie en Parlement de réaffirmer et de reconnaître instamment et expressément le droit primordial des enfants de leurs parents et de leurs grands-parents à la pleine et entière protection et au bénéfice égal de la Charte canadienne des droits et libertés.
Oui.
Une requête tout à fait légitime et on ne peut plus appropriée. et d'instituer une commission d'enquête indépendante sur la poursuite de la politique de l'État dans le contexte de la protection de l'enfant.
Vous avez demandé de déclencher une enquête publique.
Oui. Et évidemment, le ministre de la Justice du Canada s'est dérobé en prétendant qu'il prend au sérieux leur engagement international en matière de droits de l'homme, mais il nous...
Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse.
Non, non, il y avait une réponse, évidemment. Il dit que ça ne relève pas de sa compétence, que c'est de compétence provinciale. Pourtant, ouais. C'est le fédéral qui est responsable de ses engagements, n'est-ce pas? Et selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, si ça ne relève pas de sa compétence, il a l'obligation de nous garantir une bonne poursuite de notre quête oui. par les instances appropriées.
Mais M. Johnston, vous n'êtes pas arrêté juste là, mais vous êtes continué aussi, vous êtes allé même
nous a permis d'épuiser les recours à l'intérieur du pays et ça nous a permis d'aller alerter les instances internationales
devant l'Office des Nations Unies.
C'est pourquoi nous avons rédigé et envoyé le 25 juillet 2011 une plainte collective générale.
C'est ça.
Ce qui est une analyse des faits au niveau juridique, historique et des pratiques établies des DPJ dans le contexte de la protection de l'enfant au Québec et au Canada. Et nous croyons que notre quête est très bien rédigée. Mais actuellement, nous sommes en train de formuler des plaintes individuelles et j'en profite pour lancer un appel au corps juridique qui a quand même n'a pas perdu totalement sa foi en l'être humain et qui n'est pas devenu trop cynique. S'il pourrait nous donner un coup de main pro bono,
oui.
évidemment, puisque l'État qui persécute ne laisse pas grand-chose.
Oui. Hein. Oui.
Et alors, la majorité des victimes sont tout à fait dépourvues, démunies, spoliées. D'analyser les dossiers individuels des victimes et aider à rédiger des plaintes individuelles pour l'ONU.
Mais la requête collective que vous avez déposée à l'ONU, est-ce qu'elle soit entendue?
Ça, il faut la compléter
par plainte individuelle.
Individuelle, puisque on ne mentionne aucun cas concret. Le rapporteur spécial ne peut pas agir, évidemment.
C'est-à-dire, pensez-vous qu'il y aura un débat ouvert ici au Canada avant que ça sera traité à l'intérieur
Mais
du pays?
Espérons. Notre plan d'action est de préparer autant que possible, autant qu'il se peut, des plaintes individuelles et constituer une délégation aller déposer à l'ONU au printemps les plaintes individuelles et faire un peu de
compléter la requête. Oui. Avant de vous passer la parole à Maître André, je veux savoir, est-ce que pensez-vous que la population, ils sont avisés ou ils sont conscients de la problématique et de la dangerosité?
Oui, le gouvernement et le législateur québécois s'est doté de tous les moyens et outils possibles pour nous faire taire, pour faire taire les médias. Il y a des dispositions.
Non, je parle de la prise de conscience.
La prise de conscience se fait justement par la communication, puisque la communication est interrompue. Il n'y a pas de prise de conscience, c'est évidemment.
C'est tout à fait. Maître André Popisco,
Oui, j'ai deux questions pour M. Stahl. La première, comment on peut vous trouver? Avez-vous un site Internet ou quelles sont vos coordonnées?
Oui. Comme j'ai mentionné, je suis porte-parole du groupe qui regroupe les victimes et aussi deux organisations. La première organisation, c'est la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ. Vous pouvez trouver sur Internet en faisant des recherches ou l'Association pour le respect des droits des enfants, des parents et des grands-parents du Québec oui. Et vous pouvez les contacter ou éventuellement par mouvement Action Justice.
Ils peuvent nous appeler, puis nous on peut.
Excellent, vous pouvez rediriger.
Oui.
Aussi, je fais appel aux autres victimes de DPJ qui ne se sont pas encore manifestées via ces organisations.
Mais ce serait important parce que c'était un point particulier, très sensible de société, et qu'il faut que la solidarité publique devra être présente. Maître Andréa, vous voulez dire quelque chose?
Oui, une question. Une question qui touche un peu à l'actualité, l'affaire Chafia, des Chafia, donc c'est une cause très médiatisée. On a vu ces derniers jours dans les médias qu'il y a eu plusieurs signalements à la DPJ ici au Québec pour les quatre jeunes filles et qu'aucune
intervention.
Intervention n'a été faite réellement. Quels sont vos commentaires par rapport à cette
Pensez-vous
histoire?
Pensez-vous qu'il y a eu une intervention de DPJ, on avait évité la mort de ces gens-là?
Le fait que le DPJ a l'exclusivité de ses pouvoirs, alors personne d'autre ne peut aider un enfant qui est en détresse.
Ouais.
Et si le DPJ refuse d'agir parce que le cas est trop compliqué, trop complexe, il est paresseux et il a mieux à faire avec des parents qui...
c'est vrai,
qui,
ça c'est une...
ou des familles qui sont plus faciles à mettre à terre. Alors, c'est un des reproches qu'on fait, évidemment, pour cette politique, les enfants qui sont en détresse.
C'est désolant, hein, parce que je comprends très bien, quand vous rapprochez une famille, ce sera facile d'aller arracher un enfant d'une famille pauvre que d'une famille
riche.
C'est ça,
les Shafias sont des millionnaires.
C'est ça, exactement.
Ça explique tout à fait.
Les parents.
Donc, vraiment, la DPJ, où il fallait investir, ils ne le font pas, intervenir,
absolument.
Ils ne le font pas. Et c'est où il fallait.
Et surtout,
le fait que
les intervenants des DPJ sont rarement des personnes vraiment, vraiment bien formées, on ne peut rien faire dans ces cas-là.
Mais ce temps, je vous donnerai quelques secondes pour dire un mot à la population aujourd'hui. Vous avez le micro pour vous, là. La population, vous êtes en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Vous désirez envoyer comme message?
Alors, je voudrais d'abord vous remercier au mouvement Action Justice de m'avoir permis à m'adresser à votre auditoire. C'est une première chose. Deuxièmement, il faut vraiment que la population du Québec se réveille et commence à comprendre vraiment les droits de l'homme, comment c'est important, comment on peut bafouer d'une manière vraiment pernicieuse. Comme dans ce contexte, et endormir la population
pour défendre justement l'enfant et la surtout contre la violation de la vie de l'enfant. Écoutez, voilà, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Il reste beaucoup de choses à dire et à faire dans ce dossier que nous n'allons pas clôturer aussi rapidement que vous l'imaginez. Sur ça, j'aimerais remercier à mon nom et au nom de tous les auditeurs, monsieur Johnston, en saluant son combat et ses sacrifices pour le bien de nos enfants. Je remercie également mon collègue Roland Casas qui n'a pas dit un mot aujourd'hui, Maître Andrea Popisco et Carla. C'est Clara ou Carla?
Clara,
excusez-moi. C'est Clara qui nous regarde avec un beau sourire. Merci à notre technicien de son, Madame Rosemonde Legault, particulièrement pour ses recherches et son suivi. À Radio Centre-Ville, 102.3 FM, merci de nous avoir cédé ces ondes afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, et au revoir.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe et je sens que je tombe.
Chaque année, environ un Montréalais sur six est atteint par la grippe. Plusieurs d'entre eux sont hospitalisés et certains décèdent des complications de cette infection. La grippe peut avoir des conséquences graves chez les personnes plus vulnérables. La vaccination est la meilleure protection offerte pour éviter les complications de la grippe. La grippe se propage facilement. Faites-vous vacciner pour vous et vos proches. Contactez votre médecin ou votre centre de santé et de services sociaux pour prendre rendez-vous. Un message du directeur de santé publique de Montréal. Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836 ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centre-Ville.
L'agence de voyage Service Plus vous offre ses spéciaux d'automne à destination de l'Afrique pour les départs jusqu'au 10 décembre. Conakry, 1499 $. Abidjan, 1369. Lomé, 1539. Cotonou, 1469. Libreville, 1519. Kinshasa, 1499. Nairobi, 1299. Luanda, 1699 $. Ces tarifs, incluant les taxes et frais d'OPC, sont sujets à changement selon les conditions des transporteurs. Pour vérification et information, agence Service Plus, 514-277-1934, 277-1934.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.